De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie salue la résolution de l'ONU sur Gaza. Le ministre indonésien de commerce discute de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondial lors de la réunion du G7 au Japon. Le conseil des pays producteurs d'huile de palme a tenu une réunion pour discuter de l'état de préparation à la mise en œuvre du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a déclaré que l'Indonésie se félicitait de la ratification de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la situation à Gaza. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, via son compte de réseau social X samedi 28 octobre, a déclaré que l'Indonésie se félicitait de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires à Gaza le 27 octobre. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que l'Indonésie était l'un des coparents de la résolution de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé vendredi 27 octobre un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire qui a duré longtemps et durable immédiatement à Gaza. Le projet de résolution a reçu 120 voix pour, 14 voix contre et 45 abstentions. La résolution condamne tous les actes de violence contre les civils palestiniens et israéliens, y compris tous les actes de terreur et les attaques aveugles et tous les actes de provocation, sédition et de destruction. La résolution demande également que toutes les parties respectent rapidement et pleinement leurs obligations en vertu du droit international. Le ministre du Commerce, M. Zulkifli Hassan, s'est rendu au Japon pour assister à la réunion ministérielle du G7 qui a discuté de l'augmentation de la résilience des chaînes d'approvisionnement mondial ainsi que des relations entre le secteur commercial et les aspects de durabilité. Zulkifli Hassan, dans sa déclaration à Jakarta samedi, a déclaré que c'était la première fois que l'Indonésie était invitée à cette réunion au niveau ministériel. Selon lui, cela apporterait une importance stratégique à l'Indonésie et à d'autres pays en développement dans le commerce mondial. Lors de cette réunion, le ministre du Commerce devrait participer à une séance de sensibilisation, à savoir une séance d'échange entre les pays membres du G7, les pays partenaires stratégiques et les organisations internationales ayant pour thème l'augmentation de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En outre, il a assisté à un dîner de travail axé sur la relation entre le secteur de commerce et les aspects de durabilité. L'ambassade de la République d'Indonésie à Bruxelles et le Conseil des pays producteurs d'huile de palme ont tenu une réunion pour discuter de l'état de préparation à faire face à la mise en œuvre du règlement de l'Union européenne sur la déforestation qui devrait avoir un impact sur l'industrie de l'huile de palme et des millions d'agriculteurs. L'ambassadeur d'Indonésie en Belgique et au Bruxelles et l'Union européenne, M. Andri Hadi, à travers une déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, citée par Antara vendredi, a déclaré que l'huile de palme entrant en Europe est généralement durable. Cependant, avec le règlement de l'Union européenne sur la déforestation, charges administratives et le processus d'exportation des produits de palmier vers l'Union européenne va augmenter et pourrait inclure les petits agriculteurs de la chaîne d'approvisionnement. André estime que le règlement de l'Union européenne sur la déforestation est appliqué de manière inégale à de nombreux intérêts indonésiens dans le secteur agricole, ce qui doit être traité avec prudence. Pour cette raison, il estime également que l'interaction effectuée par l'Indonésie avec toutes les parties intéressées à la question du règlement de l'Union européenne sur la déforestation à Bruxelles sont très stratégiques, surtout pour anticiper les régulations de la mise en œuvre du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a souligné « L'Indonésie a une grande opportunité de réaliser une Indonésie dorée en 2040 avec le bonus démographique qui atteindra son apogée en 2030. » Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors de ses voeux pour la journée du serment de la jeunesse qui a été téléchargé sur les réseaux sociaux Instagram et Jokowi, tel que surveillé à Jakarta samedi. Le président Joko Widodo a déclaré que la nation indonésienne pouvait profiter de cette opportunité, entre autres avec deux grandes stratégies, à savoir la préparation des ressources humaines indonésiennes et l'industrie navale. Selon le président, les ressources humaines sont prêtes à entrer de manière productive sur le marché du travail. Pendant ce temps, les ressources naturelles possédées doivent ajouter de la valeur et améliorer le bien-être des populations. Le sultan Ibrahim Iskandar a été élu pour occuper le siège du roi de Malaisie. Le sultan Ibrahim a été élu au scrutin secret vendredi 26 octobre. Une déclaration royale citée par The Star samedi 28 octobre a déclaré que le sultan Ibrahim a été élu 17e yang di Pertuan Agong pour un règne de 5 ans à compter du 31 janvier 2024. Avec cette élection, le sultan Ibrahim remplacera yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Le sultan Abdullah terminera son mandat le 31 janvier l'année prochaine. Pendant ce temps, le sultan Perak Nazrin Muizuddin Shah a été choisi comme son adjoint. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de la ville de Medan, au nord de Sumatra. Le gouverneur par intérim de Sumatra du Nord, M. Hasanuddin, a dévoilé mercredi les ulos de 1000 mètres de long qui seront déployés au Monument National de Jakarta, au Monas. Le déploiement des ulos aura lieu à Monas le 30 octobre 2023. Selon Hasanuddin, le gouvernement provincial du Nord de Sumatra fait pression pour que la Journée nationale des Ulos soit déclarée par le gouvernement central afin qu'elle devienne un patrimoine culturel national et appartienne même au monde. Le président du Comité national de la Journée nationale des Ulos, Michael Siregar, a déclaré que les Ulos de 1000 mètres de long représentent 5 tribus de la région du Lac Toba. Ulos a été tissé par 15 personnes. Les ulos ne sont pas épicés et sont tissés directement par des tisserands qui disposent d'une licence gouvernementale. Ulos est devenu un patrimoine culturel immatériel national par le ministère de l'Éducation et de la Culture le 17 octobre 2014. Le jour de cette désignation est désigné comme la Journée Ulos, qui est célébrée tous les 17 octobre. Les nouvelles suivantes sont venues de Surakarta dans le centre de Java. Des dizaines d'artistes de plusieurs pays ont animé le festival Panji de l'ASEAN, organisé mercredi soir par le ministère indonésien de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie à l'hôtel de ville de Surakarta dans le centre de Java. La directrice de développement et de l'utilisation culturelle du ministère de l'Éducation et de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Madame Irini Dewiwanti a déclaré que le festival avait réuni 9 pays de l'ASEAN. Selon lui, l'histoire de Panji est une histoire indonésienne originale et s'est répandue dans tous les pays de l'ASEAN. Le manuscrit Panji a reçu le titre de Mémoire du monde de l'UNESCO. L'Indonésie a donc une responsabilité. Enfin, selon lui, des reliefs racontent l'histoire de Panji se trouve dans plusieurs endroits d'Indonésie. La dernière nouvelle vient de Banjarmasin dans le sud de Kalimantan. Le Bureau de l'Éducation et de la Culture de la province de Kalimantan du Sud a organisé une visite du patrimoine culturel de la grotte de Liang Bangkai dans la région de Tanah Bumbu avec la participation d'étudiants. Le chef de la division de la culture du service provincial de l'éducation et de la culture de Kalimantan du Sud, Raudati Hildayati à Banjarmasin, a déclaré mercredi que dans cette activité, son groupe avait impliqué des étudiants de SMAN 1 Simpang 4, la région de Tanah Bumbu, Kalimantan du Sud, pour accroître la compréhension de l'histoire et patrimoine culturel de leur région. Il expliquait que la grotte de Liang Bangkai était l'un des sites habités par des humains préhistoriques 3000 avant Jésus-Christ, avant des preuves de l'existence d'artefacts, d'outils ménagers et d'anciens squelettes humains. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Thank you. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 28 octobre. Le 28 octobre 1928 est la journée du serment de la jeunesse. L'organisation des jeunes composée d'étudiants de toute l'Indonésie, l'Association des étudiants indonésiennes, a lancé la tenue du deuxième congrès de la jeunesse les 27 et 28 octobre 1928. Le congrès visait à renforcer le sentiment d'unité et de nationalité indonésienne qui s'était développé dans l'esprit et le cœur des jeunes. Le deuxième congrès de la jeunesse s'est déroulé en trois rencontres différentes. La première réunion a eu lieu le 27 octobre 1928, tandis que la troisième réunion a eu lieu le 28 octobre 1928. Le deuxième congrès de la jeunesse était dirigé par Sugondo Joyo Puspito de l'Association des étudiants indonésiens. Au premier jour du deuxième congrès de la jeunesse, s'est tenu au bâtiment de la jeunesse catholique et le deuxième jour au bâtiment Osfzava, maintenant au Medan Merdeka Utara numéro 14. Alors que la troisième réunion s'est tenu au bâtiment de Club Gebu. C'est lors de cette troisième réunion qu'est annoncé les résultats du congrès connu sous le nom de Serment de la jeunesse, qui met l'accent sur les idées de patrie indonésienne, de nation indonésienne et de langue indonésienne. Citant museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id, la décision du deuxième congrès de la jeunesse connu sous le nom de Serment de la jeunesse signifie que la jeunesse indonésienne aimera toujours la patrie indonésienne, maintiendra l'unité en tant que nation et maintenir l'utilisation de l'indonésien dans la vie quotidienne. Le 28 octobre 2009, la New Rocket de la NASA a été lancée. Après avoir été retardé d'une journée en raison du mauvais temps, le prototype du fusée qui servira à renvoyer les humains sur la Lune a finalement été lancé avec succès. Le lancement d'essai de la fusée Ares-EX a été effectué depuis le Kennedy Space Center en Floride aux États-Unis le 28 octobre 2009. Lors de ce lancement, la fusée n'a transporté aucun équipage ni aucune charge. Ce prototype de fusée n'a été utilisé que pour tester la première étape du processus de combustion du carburant d'appoint de la fusée. Le 28 octobre 2014, une fusée sans pilote appartenant à l'Agence spatiale nationale des États-Unis a explosé. Une fusée sans pilote appartenant à l'Agence spatiale nationale des États-Unis, ou NASA, a explosé peu après son lancement depuis le centre de lancement de vaisseaux spatiaux en Virgin aux États-Unis, le 28 octobre 2014, heure locale. La NASA a déclaré qu'il n'y avait eu aucune victime dans l'accident. Fusée à 14 étages construite et lancée par Orbital Science Corp. Il a explosé lors de son lancement depuis le Wallop Flight Facility, situé en bord de mer vers 18h22, heure locale. Antares transporte un cargo contenant une cargaison pesant 2293 kg, qui devait être envoyé vers la Station spatiale internationale et une violente explosion s'est produite peu après le lancement de la fusée. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Lebih hangat dari ber. lalu.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter le vice-président qualifie le transversal de force motrice vers une Indonésie dorée en 2045. Le vice-président de la République d'Indonésie, M. Ma'ruf Amin, a déclaré que la numérisation de l'économie et de la finance de la charia fait partie de la technologie transversale pour progresser vers une Indonésie dorée en 2045. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Ma'ruf jeudi à l'ouverture du 10e Festival économique indonésien de la charia à Jakarta Convention Center, Jakarta. Citant wapres.go.id, le vice-président Ma'ruf Amin a déclaré que son initiative stratégique visant à accélérer la mise en œuvre de la technologie transversale, l'Indonésie ne devrait pas être optimale pour atteindre son objectif de produit intérieur brut en 2045. La technologie transversale, à savoir la technologie intersectorielle ayant un impact multisectoriel, est une condition préalable pour que tous les secteurs potentiels franchissent avec succès les étapes vers l'Indonésie dorée 2045. Le vice-président Ma'ruf Amin a déclaré que l'Indonésie possède de nombreux atouts et potentiels pour devenir un pays à revenus élevés, elle doit donc accroître l'application de la technologie et la numérisation dans tous les secteurs. Il a ajouté que l'application de la technologie transversale dans le secteur économique et financier de la charia accélérera l'économie et la finance de la charia pour les rendre inclusifs et durables. Il a estimé que l'utilisation de la numérisation et de l'innovation numérique augmentera l'efficacité et la productivité de l'industrie halal. À cette occasion, le vice-président a apprécié une forme de numérisation des fonds sociaux sous la forme de la plateforme d'application en wakaf indonésien. En élargissant l'utilisation de la numérisation, le vice-président a demandé à tous les militants économiques de la charia d'accroître les connaissances financières et l'inclusion de la charia de moins 50%. Il a également encouragé les militants économiques de la charia à créer des stratégies de communication, des récits et des canaux d'information conformes aux derniers développements. Ceci est important pour qu'ils soient facilement acceptés et compris par la jeune génération, futurs dirigeants potentiels. Le vice-président a demandé à tous les acteurs du développement de l'économie de la charia d'être conformes au programme économique et financier de la charia en mettant immédiatement en œuvre deux plans directeurs de l'industrie halal indonésienne lancés aujourd'hui. Ma'ruf Amin a demandé au Comité national pour l'économie et les finances de la charia, au ministère de la planification du développement national, en collaboration avec le ministère des Finances et d'autres ministères concernés, donc la Banque d'Indonésie, de le superviser et de le réaliser immédiatement. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Awan mendari la 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 la
lakukan apa yang ku mau, apa yang ku mau. Kini aku lepas, let's enjoy my freedom. Kini aku bebas, lakukan apa yang ku mau. Kini aku bebas.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Sego Wiwit, un aliment typique de Klaten, Java Central. À l'approche des semis de riz, les agriculteurs de la région de Klaten, située dans la province de Java Central, environ 38 km de la ville de Soro, préparent toujours un plat appelé Sego Wiwit. En japonais, Sego signifie du riz, tandis que Wiwit signifie commencer. On peut donc interpréter que le Sego Wiwit est un plat destiné aux agriculteurs qui commencent à planter du riz. Selon les croyances locales, Sego Wiwit a été créé pour honorer Dewi Sri, la déesse du riz, ainsi qu'un signe de gratitude pour la bonne fortune que Dieu a donnée. Ce Sego Wiwit a fabriqué à partir du riz blanc en forme de cône semblable au riz tumpeng. D'habitude, le Sego Wiwit est servi avec plusieurs accompagnements tels que gudangan, du poulet ingkung, des œufs durs, du poisson salé et du soja mulu. Le gudangan est fabriqué à partir de divers légumes tels que les épinards, les germes de soja et les haricots longues bouillies. Le poulet ingkung est un poulet cuit avec des épices telles que des échalotes, de l'ail et du galanga, de la coriandre et du sel, puis donné de l'eau chaude et cuit jusqu'à ce que les épices soient absorbées. Une fois cuit, faites griller brièvement le poulet jusqu'à ce qu'il ait une sensation de carbonisation. D'habitude, il est cuit au charbon de bois pour que le poulet ait encore meilleur goût. Pendant ce temps, les graines de soja sont généralement frites et ensuite pillées avec de l'ail, des feuilles de citron vert et du galanga qui sont utilisées comme substitut à la sauce chili. Le Sego Wiwit est servi en forme d'abord en cornet et en le plaçant au milieu d'un plateau tapissé de feuilles de bananier. Ensuite, les plats d'accompagnement sont placés sur le bord du riz en cercle. De nos jours, pour goûter le sogoïd, il n'est pas nécessaire d'attendre une cérémonie de remerciement avant de planter du riz, parce que de nombreux vendeurs de sogoïd le vendent. Le menu servi est toujours le même que la version originale. La seule chose qui a changé, c'est la taille. Pour une cérémonie de remerciement, un plateau de sogoïd peut être mangé par un groupe, tandis que ceux vendus pour une seule personne et coûte environ 20 000 roupies. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « Sogoïd, un aliment typique de Klaten, Java Central ». Merci à tous, à bientôt.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis des quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le Festival de Serment de la Jeunesse des îles Riau 2023. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple indonésien, notamment pour la jeunesse. Le 28 octobre de chaque année est l'occasion de commémorer le serment de la jeunesse dans diverses régions d'Indonésie. Il y a quelques choses intéressantes dans la commémoration de cette année dans les îles de Riau par rapport à d'autres régions. D'habitude, la commémoration n'est que cérémoniale, mais dans les îles Riau, elle se déroule de manière animée par diverses activités. Entre autres, des attractions artistiques et divers concours réunissant des milliers de participants. L'activité de la commémoration du serment de la jeunesse de cette année, intitulée Festival du serment de la jeunesse des îles Riau 2023. Le Festival du serment de la jeunesse des îles Riau 2023 est une collaboration entre le service de la jeunesse et des sports de la province des îles Riau, Karang Taruna de la province des îles Riau, la communauté photographique des îles Riau et AP Paskibraka de la ville de Tanjung Pinang. L'événement a duré 3 jours, du jeudi 26 au samedi 28 octobre 2023. Le service de la jeunesse et des sports des îles Riau, par l'intermédiaire du secrétaire du service de la jeunesse et des sports, le Dr Aludin Andi, a déclaré que les activités étaient centrées dans la cour de Gurindam 12, la zone riveraine de Tanjung Pinang. Et jeudi 26 octobre, une série d'activités a débuté avec le concours d'exposition du bazar de l'entrepreneuriat des jeunes, le concours de surf bolang, le concours de danse créatif des jeunes, le spectacle de kuda lumping et la danse du lion. Outre les activités qui se déroulent depuis le premier jour, depuis jeudi 26 octobre, ce jour-là a également eu le défilé de vêtements traditionnels de l'archipel et ensuite le concours du carnaval des jeunes des îles Riau, le concours de coloriage de maternelle et de la petite enfance, le concours d'artisanat et le concours d'innovation technologique pour les jeunes. La gymnastique saine pour la jeune a lancé une série d'activités vendredi 27 octobre. Le marathon photo des îles Riau, le concours focal des jeunes, le concours d'orchestre des jeunes, les jeux sportifs traditionnels tels que engrang, chopstick, hadang et gasing, ainsi que d'autres actions communautaires des jeunes se sont poursuivies. Pour les activités photographiques, plus de 200 participants et amateurs de photographie ont participé au Kepri Photo Marathon. Le Festival du serment de la jeunesse des îles Riau 2023 implique diverses organisations des jeunesses et diverses communautés des îles Riau, y compris la communauté des mototaxis en ligne. Le point culminant du Festival du serment de la jeunesse des îles Riau 2023 a eu lieu le samedi 28 octobre. Le gouverneur des îles Riau, M. Haji Ansar Ahmad, a dirigé directement la cérémonie de la 95e journée de commémoration du serment de la jeunesse au niveau de la province des îles Riau 2023 au bâtiment régional. La commémoration de la journée du serment de la jeunesse des îles Riau 2023 s'est clôturée par une soirée de divertissement ainsi que par la distribution de prix aux gagnants de diverses activités et concours organisés pendant le festival. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Jiwa melihat masa depan terang, kurang kenyaman ku berikan. Aku teduhmu, aku hangatmu, genggamlah tanganku. Berdua nikmati senja di teras rumah, sendu tersapu tawa bahagia. Berbagi cerita, bangun mimpi kita. Bersama menari sampai tua. Berbagi cerita, bangun mimpi kita. Bersama sampai tua. Berdua menanti fajar di ujung dunia, rasa menyatu selalu bahagia.
dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Keroncong intitulée Sumpah Pemuda, chantée par Toto Salmon. Cette chanson a été créée par Marjo Kahar, popularisée par l'un des légendaires chanteurs de Keroncong, Toto Salmon. Cette chanson raconte comment les jeunes doivent se comporter en luttant pour leur pays contre leurs ennemis, en servant leur patrie et leur nation, de tout leur corps et de toute leur âme, volontairement et avec un grand enthousiasme pour remplir leur serment. L'engagement de la jeunesse est un événement important dans l'histoire indonésienne, survenu le 28 octobre 1928. À cette date, la jeunesse indonésienne s'est engagée à lutter pour l'unité et l'intégrité de la nation et de l'État indonésien. Ce moment a réussi à donner naissance au courage collectif, à l'esprit d'unité de tout le peuple indonésien dans la lutte pour expulser les envahisseurs afin d'atteindre l'objectif commun, à savoir l'indépendance de la nation indonésienne. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon avec le Sumpah Pemuda. Bonne écoute!
Menjadi kewajiban pemuda pada masa sekarang. Mengabdi untuk nusa dan bangsa, memenuhi sumpahnya. Karena suasana baru menggembleng semangatmu, agar selalu bersiap maju serta teguh bersatu. Wahai pemuda, apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa kepada ibu pertiwi? Pemuda di atas pundakmu letak nasib negerimu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu. Thank you. apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa. Pada Ibu Pertiwi, pemuda di atas pundaknya, letak nasib negerimu. Hindarkan itu darimu. Bela diri.